Un sol majeur.
C'est notre sniper à nous, notre roi du Gondwana. Maman pour les intimes de RFI qui avoue, entre deux photocopieuses, et oui, ça nous arrive de nous rencontrer dans cette région-là, aimer le soleil en pyjama, c'est-à-dire...
Le soleil en pyjama, oui, j'adore le lever du soleil, j'adore le coucher du soleil. Pour moi, c'est la plus belle œuvre artistique qui puisse être. Quoi. Les gens peuvent passer des heures et des heures devant un tableau au musée du Louvre ou pas, et ils passent devant un coucher du soleil qui est magnifique.
Du verbe aimer, on trouve aussi au pays de Maman le silence du désert, avec au loin le bruit d'une chèvre ou de quelqu'un qui pile le mil. Mais il y a aussi la Corrèze, parce que c'est tout vert, un truc de sel. Et puis il y a ce qui fait Maman, son amour de l'actu et son amour de l'humour sur l'actu.
Alors pour s'assurer une victoire éclatante et très très démocratique aux élections, on connaissait déjà l'arme suprême de président fondateur, les élections surprises. On en a déjà parlé ici même. Les élections surprises ont ceci de pratique que la date des élections et leurs résultats sont annoncés le même jour. Du coup, gros équilibre.
Voilà, en quelques secondes, le petit monde de Maman. Donc d'abord, Agadez, on aura compris pourquoi, votre ville natale. Le générique de la BBC, pourquoi ?
Parce que j'ai grandi avec ce son-là. Ma mère qui écoutait les émissions, les journaux de la BBC en Haoussa, mon père qui écoutait la BBC, les journaux en français. Et donc ça a bercé mon enfance. Donc ils n'ont pas changé de générique depuis des années. Et à chaque fois que je l'entends, c'est comme les odeurs, quoi, ces souvenirs sonores, et ça me transporte dans mon enfance. Donc
Madeleine.
Voilà.
Et puis donc un extrait de cette chronique qui nous donne le sourire chaque matin sur RFI. Les auditeurs vous reconduisent à vie comme président du Gondwana. Je me suis laissé dire ça.
Ah ben, président fondateur, il est à vie, président fondateur. Mais c'est pas moi, président fondateur. Hein, je veux pas de problème.
Hein. Alors remettons les pendules à l'heure.
Oui, président fondateur. Et des fois il arrive là. Petit, qu'est-ce que tu racontes là? Attention, c'est moi, président fondateur, c'est pas toi. Oh, président fondateur, voilà, je disais à Yasmine que c'était pas moi. Voilà.
D'accord, que ce soit clair. Hein,
pas d'usurpation, pas de putsch, oui.
Voilà, c'est ça. C'était quoi l'idée du Gondwana au départ ?
L'idée du Gondwana, c'est un peu... les gens en font ce qu'ils veulent, les auditeurs en font ce qu'ils veulent. Je reçois des mails du Togo, des Togolais qui me disent « C'est le Togo, tu parles du Togo, là !» Les Congolais, pareil, les Ivoiriens. Et c'était ça l'idée, que les gens reconnaissent un peu, même les Français, parce que des fois, président fondateur, il porte une Rolex et des talonnettes, et sa femme pousse la chansonnette de temps en temps, donc les Français se reconnaissent aussi.
Oui, mais là, vous donnez les noms pour la France. Vous ne donnez pas de nom pour le côté africain.
Oui, parce qu'on s'adresse à plein de pays africains, et on parle de la France qui est toute seule, et puis c'est le privilège des présidents people. Il faut leur donner leur nom. Dangala, Voici, Closer, on donne les noms des people. Et c'est comme ça, ce qui fait que le Gondwana, un peu l'image de ce qu'on veut pas que nos pays soient. Tous les acquis démocratiques qu'on a eus, je ne veux pas, et les auditeurs ne veulent pas qu'on revienne là-dessus. Et quand on rit de l'autocratie de président fondateur, de ses excès, quand les gens rient de ça, ça veut dire que dans la vie réelle, ils vont pas l'accepter. Et les Africains se l'ont approprié, quand par exemple un président de n'importe quel pays africain déconne un peu, les gens lui disent « Attention, on n'est pas au Gondwana ici ». C'est déjà une petite victoire.
Alors, votre force, en fait, c'est d'être un sniper à la fois africain et français. Ça vous permet d'attaquer de l'intérieur les deux dossiers, celui de l'Occident et celui de l'Afrique.
Oui, les deux, c'est mes deux vies, quoi. Je suis chez moi en France, je suis chez moi en Afrique, je dis même pas au Niger ou en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique. Et cette double culture, cette double préoccupation fait que dans tous mes actes artistiques et même actes de la vie, je veux qu'il y ait une résonance au niveau politique et social.
Pas trop de procès, d'interdiction de séjour, non. Ici et là, pour avec le Niger, ça va bien?
Tout, ça va très bien, le Niger, je vais voir ma mère, tranquille. En fait, je me demande, même s'ils écoutent là où ils n'ont peut-être pas la radio, ils sont branchés, nos présidents sont plutôt branchés sur les télévisions par satellite, ou ils écoutent des missions de musique, je crois.
Votre inspiration, Maman, vous la devez principalement aux dessinateurs de presse, hein, plus qu'aux humoristes.
Oui, ma vocation, plutôt. Ma vocation vient plus de la bande dessinée, plus du dessin. Les caricaturistes ont, par exemple, mon admiration profonde, quoi. C'est plus eux, mes modèles, que mes collègues humoristes.
Une question en direct qui nous arrive sur le Facebook, Diana Adolphine Dibangui, qui vous demande s'il y a des thèmes tabous dans vos sketchs.
Dans mes sketchs.
Est-ce qu'il y a des thèmes que vous vous interdisez?
Des thèmes, je m'interdis par exemple de parler de sexe sur scène. J'en parle pas.
C'est votre côté
J'en parle
religieux,
pas déjà dans la vie de tous les jours. Non, c'est une question de pudeur. Je trouve que c'est quelque chose qui appartient à la sphère privée. Donc même dans la vie de tous les jours, je ne fais pas de blagues sur le sexe. Donc sur scène, je trouve qu'il faut attirer les gens vers quelque chose de pas facile. L'art est fait pour ça, quoi.
Donc, est-ce que Louis Armstrong est dans son genre un humoriste du jazz?
C'est un humoriste, un excellent comédien, un grand rire, une bouille. C'est l'artiste, quoi. En plus, qui a souffert de son image, donc le tome qu'on voulait lui coller à son époque. Et il est toujours là, des années, quoi.
Vous avez choisi Mac the Knife, pourquoi?
Mac the Knife, parce que c'est une chanson que j'écoutais tous les jours, les dimanches, avec mon cousin Jack, à qui je dis bonjour, qui est quelque part en train d'enseigner dans une petite école en brousse au Niger, et on l'écoutait les dimanches.
Louis Armstrong dans le programme en sol majeur de Maman.
Sharp and pretty teeth, dear, and he shows them pearly white, just such a jackknife as Mac Heath, dear, and he keeps it out of sight when the sharp bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heath, dear? So there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Is that someone Mac the Knife? Yes, from a tugboat by the river. A cement bag drooping down, and the cement's for the waiter. That's you, Mackie, back in town. Yes, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And Mackie spends like a sailor. Did our boy do something rash?
Mac the Knife, Louis Armstrong en son majeur dans le programme de notre invité, l'humoriste Maman, un sahélien au pays de Gaston Lagaffe.
Écoutez, cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose.
Nigérienne, Nigérien, ce jour, 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Après 15 ans de règne, jalonné d'injustice, de corruption, d'égoïsme et d'indifférence à l'endroit du peuple auquel elle prétendait assurer le bonheur, nous ne pouvions plus tolérer la permanence de cette oligarchie. En ma qualité de chef d'état-major général des forces armées, je décide et proclame la suspension de la Constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale, la suppression de toutes les organisations politiques et parapolitiques.
Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, ça.
Ça fait du bien, hein.
Ça fait du bien et ça a une résonance sur l'actualité toute récente au Niger.
C'est-à-dire ?
Tout ce qu'il vient de dire, là, suspension de la Constitution, de l'Assemblée nationale. Et c'est donc le coup d'État qu'il y a eu en 1974. L'armée a mis fin au régime de Duré Amani, qui était le premier président du Niger après l'indépendance. C'était donc la première fois qu'on avait au Niger un gouvernement militaire. C'était le Conseil militaire suprême. Et c'était un discours qu'on, tout petit, moi je l'avais appris par cœur. Ça nous avait marqué, oui. Les premières phrases, on l'avait appris par cœur. Puis la photo de Sini Kounti, elle trônait partout, dans les bureaux, dans les administrations.
Donc c'était un héros pour vous?
À l'époque, oui, c'était la figure vraiment du papa sévère, quoi. Et on disait même que dans les bureaux, les trésoriers, au moment où ils voulaient piquer dans la caisse, ils levaient les yeux, ils voyaient le regard sévère de Sini Kounti, ils remettaient l'argent dans la caisse. Et c'était... Je l'ai mis, ça, parce que le président actuel du Niger faisait partie du Conseil militaire suprême à l'époque de ce coup d'État. On est en 2009 et il est président. Et donc il y a certaines personnes qui ont encore la nostalgie de cette époque-là, de 1974, mais pas moi et pas la majorité.
Et à l'époque, vous, le fils d'ambassadeur, pardon d'assister,
à l'époque, il n'était pas ambassadeur.
Mais votre papa n'était pas encore, mais il devait aller bien malgré tout, peut-être viésé, on va dire.
Oui.
Est-ce que vous, je ne sais pas quel âge vous aviez, parce qu'il y a un flou autour de votre date de naissance, Maman.
Oui, j'étais à l'école primaire.
Mais est-ce que dans ces premières années de dictature qui se mettent en place, il y a une espèce d'autocritique dans votre tête qui naît ou pas du tout?
J'étais trop jeune pour ça, et puis on ne prenait pas ça pour une dictature. Il y avait, je crois, un ras-le-bol à l'époque, et c'était venu comme une sorte de libération. Et il y avait un ordre qui se mettait en marche. Et aujourd'hui, des gens, alors qu'il y a eu la démocratie au Niger, des gens ont la nostalgie de cette époque-là, de l'ordre et tout, et ça, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a eu plein de choses, le mur de Berlin est tombé, la majorité des Nigériens qui ont 20 ans aujourd'hui, ils n'ont pas connu cette époque-là, et ça fait quand même 25 ans, c'est une époque qui marque, et qui marque encore les générations qui l'ont connue, et qui veulent faire fonctionner le Niger avec les repères de cette époque-là.
Donc ça. Prise de conscience en tout cas pour vous, de façon individuelle, précoce en tout cas. L'exercice de la critique satirique, vous l'expérimentez quand et où ?
Inconsciemment, mon père ramenait des journaux tout le temps, je lui piquais Le Monde, Jeune Afrique, c'était ça qui m'intéressait beaucoup plus que d'autres journaux. Mais je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Grâce à lui, à ses conseils, on lisait. Il me faisait une sorte de décryptage, d'arrêt sur image. Et ça m'est venu comme ça, petit à petit, goutte après goutte.
À quel moment pensez-vous dans l'autre langue ?
Je pense à Oussa, des fois, quand, par exemple, je suis énervé. Quand je conduis...
Ça donne quoi, Maman énervée ?
Qu'est-ce qui me sort spontanément ? Je dis « Bonne son chez Gantaka ». En Oussa, ça veut dire, pour être trop poli, ça veut dire « Je veux pas de manque de respect ». C'est quoi ce manque de respect, là ? Et ça me vient spontanément, comme ça. Et des fois, je rêve en Oussa, en français. Les deux se mélangent.
Et quand vous parlez à un bébé ? J'ose pas dire quand vous parlez à votre bébé, parce que vos groupies vont s'évanouir. Mais comment il n'est pas libre?
J'ai une petite fille qui a 3 ans et demi. Je lui parle en français, je lui parle en houssa. Et tout dépend des mots de tendresse. Ça peut changer d'une langue à l'autre. Comme disait Kateb Yassine, la langue française, c'est devenu le butin de guerre.
Ah, c'est devenu votre butin aussi, voilà. Votre patrimoine, Kateb Yassine.
C'est pour ça le titre du spectacle, je malmène les mots.
L'Afrique, donc, est présente dans ce que vous transmettez, en tout cas, autour de vous.
Tout le temps, dans ce que je suis, dans l'image que je veux laisser. L'Afrique, elle n'a pas de bonne image dans les médias. Et pourtant, je l'ai dans le sens, c'est un beau continent, une belle histoire.
Est-ce que vous avez malgré tout, quand vous vous baladez dans les rues de la capitale, votre gris-gris, votre fameux gris-gris, le Becherel dont vous parlez sur scène?
Ah, le Becherel, il ne me quitte jamais, le Becherel, non seulement pour échapper au contrôle policier, mais en plus pour continuer à déceler des petites failles, comment malmener la langue française.
Bon, est-ce qu'on a le temps d'écouter un peu d'Oum Kalsoum? Parce qu'il faut du temps au temps pour Oum Kalsoum.
Ah ben il faut.
Quand est-ce qu'elle est entrée dans votre vie, cette grande dame?
Oum Kalsoum, c'est à Agadez, ça me rappelle mon enfance à Agadez. Il y avait à l'époque les relations avec la Libye, étaient au beau fixe, il y avait le consulat de Libye qui faisait des projections de films en noir et blanc, des films. Je me souviens plus ce que c'était, mais ça devait être des films d'actualité. Bon, maintenant avec le recul, je me rends compte que c'était de la propagande pour Kadhafi, et il mettait des chansons d'Oum Kalsoum, et quand j'entends ça me rappelle ça, c'est El Atlal et Vestige, donc c'est Vestige de l'amour, Vestige du passé.
Mon son majeur sur RFI dans les oreilles de Maman, pas encore citoyen français mais trublion mondial.
De quelle nationalité êtes-vous?
Nigérienne, comme on dit, donc je préfère dire je suis du Niger parce que les gens entendent ah oui t'es du Nigeria, d'accord. Et c'est notre drame, les Nigériens, d'être confondus tout le temps avec le Nigeria qui est beaucoup plus connu que nous. Grâce au sport et puis grâce à beaucoup de choses qui sont pas souvent très positives, quoi.
Sinon, la nationalité française, une tentation?
Non, pas une tentation. Je devrais faire les demandes, les démarches, mais par négligence, j'ai pas encore fait. Mais va falloir que je m'y mette.
Mais
quoi.
Si vous le faites, vous le faites dans quel état d'esprit?
Dans un état d'esprit où, selon les lois, j'ai le droit de le faire. Et puis aussi pour pas une certaine protection, mais oui, pour éviter toutes ces démarches un peu enquiquinantes à 4h du matin, faire la queue à la préfecture.
Et oui, les joies du métier. Voilà, mais alors, la question, c'est est-ce que vous avez le profil, Maman? Vous connaissez bien la question, vous connaissez les critères pour obtenir la nationalité française.
Tout dépend des préposés au guichet, hein, parce que c'est ça, c'est élastique, ça change en fonction des préfectures, que ce soit en Seine-Saint-Denis ou dans le Tarn-et-Garonne, ça dépend de l'humeur et de la bonne volonté.
Et puis comment prouver aussi votre intégration au ministre de l'Identité nationale? Est-ce qu'un blind test sur les fromages qui puent, ça peut aider?
Oui, c'est ce qu'on fait souvent. J'en rigole dans le spectacle où il y a toute une batterie de tests pour prouver son... on nous demande par exemple la recette du poulet basquaise.
Vous la connaissez?
Non. Donc va falloir que je m'y mette aussi.
Voilà. Le reblochon, vous savez le détecter par rapport à...
Non plus, faire la différence avec le maroilles non plus, le camembert, le roquefort, tout ça. Je ne suis pas un bon français encore, moi.
Il y a du boulot.
Il y a du boulot.
Sinon, l'idée du retour au pays, est-ce que ça traverse le sahélien que vous restez?
J'ai jamais quitté le pays. Dans ma tête, j'y suis tout le temps. Je ne me considère pas comme parti, quoi. Je le vis au jour le jour, tous les jours. Le Niger est dans ma tête, l'Afrique est dans ma tête. Là, bientôt, je pars participer au SAFEM à Niamey.
Oui, c'est une question d'un fidèle dans Sol Majeur sur Facebook, Christian Ondoa, qui veut vous voir en Afrique.
Ah bah oui, Christian Ondoa, c'est un nom camerounais, ça. Ah oui, j'ai passé une partie de mon enfance au Cameroun, mon adolescence. C'est un peu mon second pays, le Cameroun. Et je vais bientôt aller jouer au centre culturel à Yaoundé, à Douala. En fait, je disais tout le temps à mes collègues, vous rêvez de jouer à l'Olympia. Moi, mon rêve, c'est de jouer à Yaoundé, à Kinshasa, à Niamey. Vraiment aller jouer devant un public africain. Et là, depuis un an, ce rêve est exaucé. J'ai joué à Lomé, je joue à Dakar et ça s'est toujours très très bien passé.
D'accord, c'est noté, une bonne nouvelle. En même temps, Maman, ça fait 15 ans que vous êtes en France, ouais. Quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous sentez vous transformer au pays de la carte bleue, des congés payés, des RTT, de la carte vitale?
Oui, je me sens transformé, mais c'est pas seulement ces 15 ans. C'est que, en étant ressortissant d'un pays francophone, donc colonisé par la France, on a ce réflexe avec RFI tout le temps dans les oreilles depuis l'enfance. On se sent un peu français. Petit à petit, on prend les réflexes. Par exemple, ce que j'ai ressenti tout récemment, c'est que je commence à être un peu individualiste. Oui.
Par exemple,
des fois, je tiens à mon confort. Je veux pas sortir de chez moi, je veux pas. En Afrique, les maisons sont ouvertes, les gens viennent à n'importe quelle heure, ils sont pas invités, il y a toujours à manger. Mais là, des fois, je me dis, oh, j'ai envie de rester tranquille chez moi, j'ai pas envie de voir quelqu'un. Et quand je m'en rends compte, je dis, oula, je suis en train de partir en live.
Pantouflard.
Voilà. Mais du moment que je me rends compte que je prends cette mauvaise pente-là, j'ai de l'espoir donc.
Et est-ce qu'il y a malgré tout des choses immuables, des codes hérités du pays qui... Vous sentez que ça ne s'effacera peut-être pas?
Oui, tout ce qu'on a dans notre éducation. Moi, j'ai reçu une éducation déjà au niveau de la famille. Comme je suis d'une famille, on voyageait beaucoup, donc on se retrouvait vraiment dans le cocon familial et ça ne disparaît pas. Ça fait partie intégrante de moi, ma religion, les prières 5 fois par jour. Oui, si j'abandonnais ce côté-là, c'est comme si j'abandonnais une partie, une énorme partie de moi. Quoi.
Regarder un ancêtre ou un aïeul dans les yeux, c'est pas conseillé non plus dans votre tradition.
Oui, un aîné, on ne soutient pas le regard. C'est une marque d'insolence, d'impolitesse de fixer, de le soutenir le regard d'un aîné, ou même lui tendre la main quand on le salue, on attend que l'aîné tende la main. Et ça, c'est des choses que je n'oublie pas. Quoi.
En sol majeur @rfi.fr.
Et pour la vidéo de Maman en sol majeur qui sera déposée par Thomas Ferrière tout à l'heure, vous pouvez aller sur notre Facebook et notre blog deuxamours.blogs.rfi.fr. Merci Maman, c'était trop court.
C'est trop court, elle devrait durer 24 heures cette émission. Hein.
Je rappelle que Maman malmène les mots, c'est à voir au Lavoir moderne parisien, ça marche, donc c'est prolongé.
C'est prolongé.
Voilà. Et puis on vous retrouve dès lundi sur l'antenne de RFI pour votre chronique de 6h55, c'est ça ?
57, c'est sur RFI.
Une chanson nigérienne pour refermer cet ensemble majeur, ça me paraît pas mal.
Oui, une chanson Haoussa, c'est Danko Ero dans Maliki. Grand chanteur Haoussa.
Merci, je vous embrasse. Hein. Je vous regarde pas dans les yeux. Hein.
Ah bah si, si. Faut, pour se dire au revoir.
Caroline Filiette, Marc Delouvrier, Pascal Bongo, Yasmine Chouaki. On se retrouve lundi autour d'une âme métissée à souhait, moitié comorienne, malgache, afro-américaine et martiniquaise de cœur, celle du chanteur Mike Ibrahim. À lundi.